Cap à Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap à Cap avec Valérie Bernard-Carsody. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors je reçois ce jour une représentante d'une profession souvent encensée, mais rarement reconnue et gratifiée à la hauteur de sa compétence, de son dévouement, de la pénibilité morale et physique de son métier. Vous l'avez certainement compris, mon invitée est infirmière, elle a opté pour une spécialité certainement particulièrement éprouvante, elle va nous en parler, enfin vu de l'extérieur à tout le moins, les soins palliatifs. Bonjour Valérie Bernard.
Bonjour.
Alors Valérie Bernard, infirmière de formation, pourquoi ce choix ?
Alors pourquoi ce choix ? Ce choix il s'est fait de manière tout à fait naturelle de par mon expérience professionnelle.
Pourquoi vous avez choisi d'être infirmière ?
C'est ma question. Infirmière. Hein,
pourquoi, alors, eh bien, pourquoi infirmière ? Parce que c'est quand même pas un choix totalement innocent.
Ah non,
on y vient rarement par hasard. Il y a quelque chose d'autre derrière.
Bien sûr. Eh bien, il y a déjà tout naturellement l'attention à l'autre.
Oui.
Du coup, en fait, oui, l'attention à l'autre, c'est évidemment ce qui guide notre choix d'exercice, avant
bon,
tout. La relation humaine, aimer l'autre, aimer prendre soin de l'autre. Et moi, j'avoue que mon projet d'infirmière, il a été porté par, avant tout, ce projet d'exercer en unité de soins palliatifs. Donc, j'avais
lorsque vous êtes rentrée à l'école d'infirmière.
Oui.
Vous avez fait le diplôme d'état d'infirmière.
Oui.
Mais après, vous avez fait d'autres choses. Alors, DIU, je ne sais pas ce que ça veut dire, éthique de la santé.
C'est un diplôme interuniversitaire d'éthique de la santé, parce que dans le soin, vous l'imaginez bien, il est impossible de contourner ces questions éthiques et elles sont non seulement salvatrices, mais indispensables pour bien accompagner les patients dont nous nous occupons. Nous sommes confrontés très très régulièrement à des questions éthiques et il est important d'apporter une réflexion, de la confronter à d'autres, de la partager et sans arrêt de nous questionner par rapport à notre posture de soins.
Ce diplôme interuniversitaire, il est ouvert également aux médecins ?
Oui, à tous les soignants. Oui, mais soignants et professions paramédicales et médicales.
Et le master 2 IPA, alors moi j'ai toujours un peu de mal avec tous
ces acronymes.
Acronymes divers, qu'est-ce que c'est ?
Alors, IPA, ça veut dire infirmière en pratique avancée. Donc c'est une qualification qui se situe entre le diplôme d'état d'infirmière et on va dire peut-être le médecin. C'est une infirmière qui a des compétences complémentaires et qui peut seconder de manière plus directe, on va dire, le médecin. Alors c'est des formations IPA, il y a plusieurs spécialités, il y a la cancérologie, il y a la psychiatrie, il y a les soins palliatifs, il y a la gériatrie. Moi j'ai effectué à l'université d'Aix-Marseille cette formation et du coup à l'époque les IPA en soins palliatifs n'existaient pas et c'est pour ça que je me suis orientée vers la gériatrie parce que ça me semblait être la spécialité la plus proche des comorbidités et puis de la pathologie et de la fin de vie pour ces personnes âgées.
Pourquoi cette attirance pour la fin de vie ?
Pourquoi ? Parce que je pense que c'est un moment extrêmement authentique où la personne se dévoile ou est plus, en tout cas, plus vulnérable. Mais cette vulnérabilité, elle permet une ouverture et une relation extrêmement vraie, extrêmement authentique. je trouve intéressant. Alors, peut-être que avant de vous dire pourquoi je me suis orientée vers les soins palliatifs, bien sûr, c'était pas totalement du hasard. Il y a une expérience qui m'a marquée dans ma formation, qui était celle d'être spontanément, d'être restée spontanément auprès d'une dame qui se trouvait en soins intensifs en cardiologie. Et je ne sais pas, cette posture m'est venue tout à fait naturellement, de ne pas laisser cette personne décédée seule.
Et vous n'avez pas toujours été dans ce secteur-là ? Vous avez travaillé dans d'autres services ?
J'ai travaillé en gériatrie. Donc, là encore, on est dans une période assez vulnérable hein, pour la personne âgée. J'ai travaillé en gériatrie, en plus en EHPAD.
Pas
à domicile.
Chez Orpea, quand même.
Pas chez Orpea, mais je pourrais en raconter aussi.
Oui, je pense.
Car il n'y a pas que Orpea, croyez-moi, qui puisse avoir des dérives, on va dire, dans la prise en soins. Donc, une période, en effet, où les gens sont particulièrement vulnérables, souvent démunis parce que ils ne sont plus chez eux, avec leurs repères, etc. Et donc, c'est très important d'aller leur apporter un entourage sécur et donc de déployer, nous, en tant que soignants, cette confiance dans la relation.
Et les enfants, ça, on fait toujours en parallèle avec les enfants et les vieillards. Ça vous a jamais intéressé, la pédiatrie par exemple ?
Alors j'ai fait un stage dans le réseau Enfando, qui est le réseau de soins palliatifs chez les enfants, à l'hôpital des enfants. C'est une expérience très riche. Peut-être que je me sentais pas forcément à l'aise. Je ne sais pas pourquoi, j'aurais du mal à vous expliquer pourquoi.
Vous avez choisi d'exercer en hôpital, en clinique, en maison de retraite, vous l'avez dit. Le libéral ne vous a jamais tenté ?
Si, mais en fait, tout naturellement, je me suis réorientée avec ce projet de biographie hospitalière. Donc, j'aurais pu aller en effet en libéral. Je pense que, vous savez, c'est pas le lieu qui est important. C'est la posture que vous avez, c'est comment vous pouvez investir votre rôle auprès des patients. Quel que soit le lieu, que ce soit chez les enfants ou au domicile, le domicile c'est très riche. Moi j'interviens actuellement comme biographe hospitalière au domicile des patients aussi. Et le domicile, c'est une relation extrêmement intéressante parce que vous rentrez dans l'intimité des gens se dévoile autre chose. Donc, j'allais dire, quel que soit le lieu, l'important, c'est de se sentir bien, accord.
Bien sûr, avec le recul que vous avez aujourd'hui, l'expérience, vous referiez ce choix ?
D'exercer comme biographe hospitalière ?
Non, on viendra sur la biographie, mais d'exercer comme infirmière.
Oui. Je le referai parce que je pense que je l'ai en moi. Je pense que j'aime profondément prendre soin des autres.
Alors beaucoup de vos collègues, on l'a vu notamment pendant l'épidémie de Covid, sont exprimés sur leur métier, sur les conditions oui. matérielles, sur les conditions humaines, financières. C'est quand même assez catastrophique.
Je suis totalement d'accord. C'est même incroyable la différence par rapport à des pays de proximité comme la Suisse, etc., les Pays-Bas où il y a des différences de salaire incroyables. On nous demande d'être de plus en plus formés. L'exigence du diplôme est très importante. Hein. C'est des unités d'évaluation avec des apports théoriques très lourds. Hein. Mais on est aussi face à des responsabilités. Par exemple, moi, je peux parler des soins palliatifs parce que j'y ai exercé. Mais je veux dire, on manipule des thérapeutiques qui peuvent être extrêmement dangereuses. Hein, et ça, c'est une réelle responsabilité. Et il va de soi que les salaires ne sont absolument pas à la mesure de l'exigence qu'on demande aux infirmiers et aux infirmières sur le terrain. Et encore, moi, j'allais dire que cette unité dans laquelle j'ai exercé est une unité très privilégiée, puisqu'il y a un ratio entre les soignants et les patients qui est très confortable, puisqu'une infirmière a en charge 5 patients. Ce qui fait que l'on peut, on va dire, donner de l'énergie, de la disponibilité, un soin de qualité, parce que on a cette possibilité, ayant peu de patients à s'occuper. Dans une unité, dans d'autres services, c'est en moyenne 12 patients, ce qui veut dire vraiment, vraiment autre chose au niveau du temps passé près de la personne malade et près des proches.
On viendra tout à l'heure à ce qui est votre spécialité aujourd'hui. On va rester dans le soin palliatif. Alors, le soin palliatif, c'est là où on va quand il n'y a plus d'espoir. En réalité, on ne fait que vous accompagner. Est-ce qu'on soigne vraiment en soin palliatif? Et si on soigne, qu'est-ce qu'on soigne?
Alors, en soin palliatif, on a l'habitude de dire c'est tout ce qu'il reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Et croyez-moi, il y a beaucoup à faire. Parce que c'est pas parce que vous n'êtes plus dans ce qu'on appelle, alors le soin, je pense qu'il y a un amalgame entre le soin et le curatif. Certes, on n'est plus dans le curatif. C'est-à-dire que les gens qui sont hospitalisés, la majorité des gens qui sont hospitalisés dans notre service, en effet, sont en arrêt, comme on dit, de traitement spécifique.
Donc on ne traite plus la cause, on accompagne.
Alors, on traite les symptômes, par contre. Ça, c'est extrêmement important, parce que au sein de l'unité, il y a ce qu'on appelle des algologues. Les médecins qui sont présents sont des spécialistes en soins palliatifs, donc ils savent prendre en charge les symptômes. Souvent, arrivent dans le service des gens extrêmement douloureux, inconfortables, qui ont même des demandes de ce fait d'euthanasie, très souvent, faites quelque chose, je n'en peux plus. Et le simple fait de les prendre en soin, de les entendre, de les écouter, de mettre en place, de lever des symptômes qui sont extrêmement douloureux, font qu'ils sont beaucoup plus apaisés et que là se met en place une autre relation.
Ça vous paraît normal que l'on maintienne en vie, plus ou moins artificiellement, des gens dont on sait qu'ils sont perdus et qui souhaitent eux-mêmes partir, mourir?
Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez ce que vous entendez par maintenir en vie artificiellement. Parce que nous, dans le service, on ne maintient personne en vie artificiellement.
Je me suis peut-être mal exprimé, mais disons qu'on ne hâte pas une fin que l'on sait être inéluctable et au surplus douloureuse.
Donc vous me parlez de ce fameux droit d'assistance
par
à
exemple,
mourir. En effet,
on fait très bien. Nous, si vous voulez mourir aujourd'hui à peu près dignement et sans trop de douleur, si vous voulez hâter la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous allez en Suisse? Vous allez en Belgique?
Pas
en
du
France,
tout.
Non,
pas du tout. Je vous invite à vous pencher
Merci,
sur...
Merci, je ne suis pas pressé, mais...
Non, je vous invite à vous pencher sur la loi.
Vous m'avez fait peur, vous m'avez fait peur.
Non, bien sûr que non. Sur la loi Claeys-Leonetti, qui est largement inconnue du grand public, cette loi, elle permet de soulager la personne. Alors certes, ça n'est pas une injection létale, comme vous pouvez y avoir recours, soit en Suisse, soit en Belgique, avec le suicide assisté ou l'aide à mourir. Mais il existe des choses. Dans notre service, on ne laisse pas les gens mourir dans la douleur, de manière angoissée, etc. On a aujourd'hui...
Joyeusement, c'est ça.
Alors, je vais pas... Non, bien sûr qu'on va pas être caricatural. On ne meurt pas joyeusement. Ça ne m'est jamais arrivé de rencontrer quelqu'un qui mourait joyeusement. Vous savez pourquoi? Parce que vous, comme moi, on a une pulsion de vie absolument incroyable.
Ça veut dire que les gens s'accrochent jusqu'au bout?
Oui, les gens, la plupart des gens... alors, en plus, il faut dire que dans cette unité, on reçoit des patients qui sont jeunes aussi. Donc, le plus jeune patient avec lequel j'ai travaillé n'avait que 16 ans et demi. Imaginez-vous bien qu'à 16 ans et demi, ou quand vous êtes un jeune papa de 30 ans, ou même de 50 ans, vous avez envie de vivre. Quand vous êtes une maman aussi, vous avez envie de vous accrocher, de voir vos enfants grandir, bien sûr.
C'est des gens qui ont toujours l'espoir qu'il y aura une rémission ou qui savent que, bon, inéluctablement, la fin est là.
Alors, la particularité, c'est la grande ambivalence. C'est-à-dire que les gens passent de l'expression d'un « je sais que c'est fini, dites-moi pour combien de temps j'en ai » à « Ah oui, mais j'attends que mon cancérologue m'appelle. Il y a peut-être un traitement qui va m'être proposé. C'est extrême. Là, je travaille avec une dame. Et j'ai une pensée tout particulière pour elle parce qu'elle est très altérée au moment où je vous parle. Qui est une jeune femme hein, de 45 ans, qui est atteinte d'une SLA, c'est la maladie de Charcot, et qui ne peut plus communiquer. Qui lit sur un écran, nous écrivons ensemble, elle pose son regard sur les lettres et nous écrivons ensemble de cette manière-là, donc qui est évidemment alitée, qui ne bouge plus, qui s'alimente artificiellement. Eh bien, cette jeune femme, encore, elle me dit « Ah, je crois toujours que je vais pouvoir guérir. Je ne peux pas me résoudre à imaginer que je ne vais pas pouvoir guérir. Je suis une lionne. » Et en même temps, quand elle est en détresse respiratoire, elle a tout à fait conscience de la gravité de son état. Je crois que l'homme, ça va peut-être plus chez les personnes âgées, on sent c'est pas du tout une résignation, mais comme une forme d'apaisement, parce qu'on a eu une vie parfois riche, ou en tout cas, voilà, que l'on peut dérouler. Et là, il y a comme une forme de, voilà, d'apaisement. Chez des patients plus jeunes, non, il y a forcément cette pulsion qui reste, qui demeure. Et fort heureusement d'ailleurs, parce que nous, on est là aussi pour l'accompagner, cette pulsion.
Il y a aussi des angoisses spirituelles qui s'expriment.
Beaucoup.
Ça veut dire que, est-ce que la religion, à ce moment-là, peut apporter quelque chose, peut apaiser, peut jouer pour moins pour ceux qui sont croyants ?
Bien sûr. Nous le remarquons dans le service. Alors, nous avons évidemment des aumôniers hein, de diverses confessions. Nous avons des imams, des aumôniers protestants, catholiques, auxquels nous pouvons avoir recours quand, à la demande de du patient ou de la famille. Oui, je crois que c'est une force, en effet, de pouvoir se projeter dans quelque chose d'autre, au-delà. Mais il y a mille autres questions spirituelles qui arrivent sans qu'elles soient forcément liées à la religion. C'est un moment où, évidemment, on fait le bilan de sa vie. Éminemment, on se demande où on va aller, est-ce qu'on a tout bien fait, quel est l'essence de ce qui nous arrive. Ce sens-là, il est interrogé en permanence. Encore moi, hier après-midi, un monsieur me disait Mais pourquoi moi, quoi? Pourquoi ça m'arrive? Jamais j'aurais imaginé ça. Bien sûr, il y a quelque chose de l'ordre du non-sens, de l'injustice. Il y a des mille questionnements autour de ça.
Est-ce qu'on est armé? Est-ce que vous êtes armé pour répondre à ce genre d'interrogation?
Je vais peut-être vous surprendre, mais je ne réponds pas. J'écoute.
Et les gens n'attendent pas une réponse? Le patient n'attend pas
non,
un réconfort de ce côté-là?
Bien sûr.
Écouter, exprimer une douleur psychologique comme celle-là, est-ce que ça suffit de l'écouter ou est-ce qu'il n'attend pas une réponse, une assurance
Je crois que le plus important, c'est d'offrir cet espace d'écoute. Et vous savez, elle n'est pas forcément simple. Ce n'est pas forcément très confortable de s'asseoir au lit d'un patient et d'entendre ses angoisses. Croyez-moi, pour avoir travaillé comme infirmière, parfois c'était plus confortable d'aller poser une perfusion que de m'asseoir.
Oui, parce que c'est un geste technique.
Exactement.
Et ça s'arrête là, il est limité en soi.
Exactement.
Vous trouvez que la loi Leonetti va assez loin? Vous pensez qu'elle est suffisante, qu'elle est suffisamment bien connue et appliquée?
Non, justement, c'est ce que nous déplorons en soins palliatifs, c'est qu'elle ne soit pas connue, pas suffisamment en effet explicitée auprès du grand public. On a abordé cette loi tout à l'heure, c'est par le biais de cette sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès que l'on peut soulager des patients qui présentent une souffrance réfractaire. Cette loi, elle nous permet en collégial de décider si le patient si le patient peut avoir recours à cette sédation profonde et continue. En tout cas, il l'exprime et elle est débattue de manière collégiale.
Mais ce n'est pas automatique. C'est-à-dire que si moi, je demande dans cet état, je demande à partir grâce à ces procédés chimiques, on va dire, ce ne sera pas accordé de facto. Il faudra que des gens décident pour moi.
La décision, elle revient bien sûr au médecin avant tout, à l'équipe médicale, puisque au-delà des médecins sont présents les psychologues, parfois certains même bénévoles, tous les soignants qui sont autour de la personne. Elle est suffisamment grave pour qu'elle mérite d'être débattue.
Ça veut dire qu'elle est débattue par d'autres qui ne sont pas moi, ça veut dire que ma volonté n'est pas suivie d'effet, ça veut dire que l'on...
Ah, bien sûr. D'ailleurs, c'est de par votre volonté qu'elle sera débattue.
Oui, elle sera débattue, mais si je dis « je souhaite partir, injectez-moi ce qu'il faut », on ne le fera pas.
Alors là vous me parlez d'euthanasie, vous ne me parlez pas de sédation.
Enfin la sédation, à un certain niveau, j'imagine, ça revient un peu à de l'euthanasie.
Non, pas du tout, non. En fait, la sédation permet au patient d'être dans un état... un peu comme une anesthésie, si vous voulez. Voilà, donc il est déconnecté de la réalité, mais ce n'est pas parce qu'il est sédaté qu'il va décéder dans l'heure qui suit.
À quoi ça sert alors à ce moment-là de le sédater profondément, puisqu'on sait que c'est la fin? Pourquoi avoir cet acharnement?
Ça n'est pas un acharnement, puisqu'on ne met rien... Quand on sédate quelqu'un, par exemple, on arrête l'alimentation, on arrête l'hydratation, donc on ne s'acharne absolument pas. On permet à une personne gravement malade, en fin de vie, alors là aussi le délai est un des critères qui est important pour décider de cette sédation, parce que vous imaginez bien qu'on ne va pas sédater quelqu'un qui a une espérance entre guillemets de vie de 1 ou 2 ans et quelqu'un qui va avoir une espérance de vie de quelques semaines voire quelques jours. Ça, c'est un facteur vraiment très très important, et même au-delà de ce que ça peut représenter au niveau de la temporalité. Imaginez-vous aussi que la problématique, c'est que quelqu'un peut être sédaté de manière profonde et continue pendant des semaines et des semaines. Vous imaginez pour les proches ce que ça peut représenter?
Mais à quoi ça sert?
Et ça ne sert à rien. Donc, c'est bien pour ça qu'il y a un cadre très précis pour recourir à la sédation. Mais je reviens sur ce que vous me disiez parce que c'est vraiment essentiel. Bien sûr que la première personne que l'on écoute, c'est le malade. C'est sa souffrance, qu'elle soit physique ou psychique. Bien sûr, et que l'équipe ne va pas trancher à la place d'eux, elle va trancher avec la personne malade, avec les proches aussi, puisque bien sûr, il y a une discussion autour avec la famille, avec les proches de cette personne, de ce patient. Mais en tout cas, c'est jamais une décision tranchée et qui n'appartient qu'à l'équipe médicale. Heureusement que l'espace... Et que dans cet espace-là, il y a la souffrance, et d'abord la souffrance du patient, de la personne malade.
On fait une pause musicale, on est sur des sujets particulièrement lourds, donc on va un peu s'aérer, prendre un peu d'oxygène. Vous avez fait le choix de Camille. Alors, qui est Camille?
Ah ben Camille, c'est une chanteuse française... que j'aime beaucoup parce qu'elle est à la fois gaie, mais à la fois très profonde, et puis elle joue avec les mots, j'adore. Et
justement, comme elle ne mâche pas ses mots, nous allons l'écouter.
Je ne mâche pas mes mots, je ne mâche pas mes mots. S'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat, très souvent je me raisonne avant de replonger mon doigt. Marmelade aux pommes préparée a cappella sur le piano. Si la seule vue du miel suffit à clarifier ma voix, l'aspartame à sa mémère n'édulcorera pas la colère de voir sous la princesse un petit poids. ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas, je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas, je ne mâche pas. Je ne mâche pas, je ne mâche pas.
Au nom de la castafiore, au cœur d'artichaut, de la tarentelle et du tartare au couteau, du coulis aux phrases et de ma voix dans l'écho, je ne mâche pas, je ne mâche pas.
Voilà Camille, je ne mâche pas mes mots, le choix de mon invité Valérie Bernard, infirmière et spécialiste des soins palliatifs dont nous avons beaucoup parlé, mais on pourrait faire une émission, même plusieurs là-dessus parce qu'il y a énormément de choses à dire. Il n'est pas dit d'ailleurs que nous ne le fassions pas un jour, Valérie Bernard, mais venons-en à ce qui est le cœur de votre activité aujourd'hui, toujours aux soins aux palliatifs bien sûr. Mais vous avez choisi de devenir, alors c'est étonnant quand j'ai vu la première fois une interview de vous, biographe de ces gens qui vont partir.
Oui.
Comment vous est venue cette idée? Parce que c'est quand même assez particulier. Avant de voir comment vous travaillez avec eux et qu'est-ce qui en sort, mais comment vous est venue cette idée?
Eh bien, de manière encore une fois tout à fait naturelle, c'est-à-dire que de par mon exercice, je passais du temps avec les patients qui me racontaient toujours de très belles histoires, qui avaient besoin, de revenir sur leur passé, de transmettre des anecdotes, mais aussi par moments, je sentais qu'ils avaient besoin que l'on se pose près d'eux et qu'on écoute leurs questionnements, notamment spirituels, dont nous parlions précédemment. Et ces belles histoires, c'était un vrai cadeau. Et je me disais, en sortant de la chambre, je me disais tout le temps, mais quel dommage, mais vraiment quel dommage qu'on n'en fasse rien. C'est une richesse, c'est une singularité à part entière que représentent ces mots. Ce serait bien quand même d'en faire vraiment quelque chose. Et puis par hasard, je suis tombée sur une émission de Frédéric Lopez, « Mille et une vies », où apparaissait une jeune femme, Valeria Milewski, qui est donc la fondatrice de la biographie hospitalière en France et qui présentait son exercice au sein d'une unité d'oncohématologie à l'hôpital Le Chartres. Ce reportage était très riche, très, très touchant, et je me suis dit, mais c'est incroyable. En fait, elle a fait ce que j'aimerais faire, elle a concrétisé réellement ce que j'imaginais pouvoir faire. Et j'ai pris contact avec Valeria. Je me suis formée
Oui, j'ai vu que vous avez été à l'université Lyon 2, c'est
oui,
ça hein.
Oui, pour une formation de biographe familial.
Vous ne savez pas que ça existait, donc on forme des gens à écrire des biographies familiales.
Oui, bien sûr. Et ensuite, je me suis formée, bien entendu, auprès de Valeria, puisque la biographie familiale classique, comme peuvent la proposer certains écrivains publics, est très intéressante. Mais c'est vrai que la posture en unité de soins palliatifs, elle est quand même assez différente. L'approche n'est pas la même. Je pense qu'elle demande à ce qu'on y ait un travail personnel fait. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis mis. Alors j'ai proposé à l'équipe que je connaissais bien du CHU de Toulouse et à Nicolas Safon, qui est le chef de service, s'il était d'accord pour que l'on mette en place la biographie hospitalière dans ce service. Il a tout de suite été enthousiaste, il m'a soutenue, ainsi que le professeur Fatih Nour Hashimi. Et c'est ainsi que s'est mis en place la biographie hospitalière au sein de l'unité.
Alors, ça consiste pratiquement en quoi, cette biographie hospitalière?
Il s'agit de proposer à une personne gravement malade de me raconter des épisodes de son histoire, des souvenirs, des fragments de sa vie, ou ce qu'il a envie, en fait, de transmettre. Et à l'issue de ces entretiens, je leur remets, alors à eux rarement, hélas bien sûr, du fait de cette temporalité, mais en tout cas des proches qu'ils auront désignés, ce récit de manière gratuite, sous forme d'un très beau livre relié par un artisan d'art sur Toulouse. Voilà.
Comment réagissent les familles ? Les familles sont au courant de ce travail que vous faites avec leurs parents ?
Alors oui, la plupart du temps, ils sont au courant. C'est même un sujet de partage, souvent riche. Quelquefois, les familles aiment à participer aux entretiens. En tout cas, ils ont envie eux-mêmes d'apporter quelque chose dans cette narration. Ce n'est pas l'objectif au départ, mais bien souvent, ils le comprennent et ils se retirent pour faire place totalement à leurs proches. Mais oui, la plupart du temps, les familles les proches sont au courant de la démarche.
Vous allez recueillir finalement les souvenirs plus ou moins marquants de ces gens. Vous les recueillez, mais est-ce que vous êtes uniquement un scribe ? Ou est-ce qu'il y a quand même un peu une réécriture, une interprétation ?
Surtout pas. Vraiment, Valéria, qui a initié la démarche, insiste là-dessus et elle a raison. Nous sommes des passeurs de mots. C'est-à-dire que, par exemple, dans le livre, quand je remets le livre aux familles, je n'apparais jamais, hein, bien sûr. Ce sont les mots de leurs proches qui sont dans le livre. Je tente au maximum de rester dans la mélodie, dans la voix de l'autre pour qu'il le retrouve. C'est ça qui est important. C'est pas mon écriture à moi qui est importante. Moi, j'ai simplement été une main qui a aidé à l'écriture, ou un espace en tout cas qui a permis cette écriture. Mais en aucun cas je ne veux dénaturer ce que la personne a exprimé. Quelquefois, comment dire ? Ça peut être un peu complexe parce que vous savez, chaque personne a sa manière de s'exprimer. Parfois, il y a des erreurs au niveau de la syntaxe, au niveau des petits tics de langage qui arrivent de manière récurrente. C'est pas grave. Bien sûr que quelquefois, je bouge un tout petit peu le curseur pour que le livre soit agréable à lire, mais qu'il n'y ait pas trop peut-être de répétition. Mais en tout cas, je ne bouge pas.
Comment vous travaillez ? Vous prenez des notes ou vous enregistrez ?
Les deux. Je prends des notes sur un cahier. Lors de notre premier échange, après avoir eu le consentement de la personne, je leur propose de choisir un cahier de couleurs. C'est-à-dire qu'ils vont de même choisir leur couleur de cahier, que ça soit du jaune, du bleu, du vert. C'est déjà un élément pour moi extrêmement intéressant parce que c'est souvent aussi le reflet de la personnalité ou d'un trait de la personnalité de la personne. Donc ce cahier, c'est un support et il est important. J'y prends des notes et souvent j'y mets des choses aussi en annexe qui sont plus de l'ordre de la teneur de ce qui s'est passé dans l'entretien. Par contre, j'enregistre, après bien sûr leur accord, j'enregistre systématiquement les entretiens parce que, encore une fois, je veux rester très vigilante à ce qui est dit, aux mots, vraiment ne pas bouger, ne pas dénaturer les mots que la personne a souhaité transmettre.
Comment vous organisez après ? Ce n'est pas vraiment une biographie, biographe, le terme est peut-être un peu exagéré. Vous allez requérir un certain nombre de souvenirs importants pour la personne et à ce moment-là, et vous allez les retranscrire. Mais est-ce que vous faites un plan ? Est-ce qu'il y a un ordre ? Est-ce qu'il y a un suivi ? Ou est-ce que c'est des mots qui sont jetés, des situations, des anecdotes que vous finalement compilez ?
Alors ça, je crois que... Alors déjà, nous sommes une quinzaine de biographes en France. Je crois que chaque biographe a sa spécificité, sa manière de travailler. Valéria nous a toujours présenté là, et j'aime beaucoup ce que vous venez de dire, parce qu'en effet, le terme de biographie hospitalière est presque un peu pompeux, tenu déjà de la temporalité
déjà
que nous avons.
Déjà rapprocher biographie et hospitalier, c'est un peu curieux, mais bon... C'est une biographie qui est rédigée dans des conditions hospitalières.
C'est un soin par l'écriture. Voilà. Alors, du coup, moi, ce que...
C'est un soin pour le patient ou pour les héritiers ?
Pour tout le monde. Ce soin, il a vraiment un bénéfice qui est à la fois bien sûr pour la personne malade, puisque c'est un espace en dehors même des soins qu'on peut lui accorder, un peu traumatique, un peu mutilant.
Si j'osais, je dirais que c'est une espèce de récréation intellectuelle. On se replonge dans ce qu'on a été, on revit ces moments de vie.
Oui, on refait sens avec ce qu'on a été. On se recentre sur soi-même. On se on se réunifie un peu, surtout dans des parcours de soins souvent lourds où les gens sont fragmentés par l'ensemble de ce parcours.
Est-ce que justement l'état du patient et la lourdeur des soins vous laissent un peu de disponibilité? Est-ce qu'ils ont la disponibilité intellectuelle? Est-ce que...
Parce que si
vous êtes un peu plus ou moins sédaté, parce que si j'ai bien compris, on monte les doses au fur et à mesure que la maladie se développe et la douleur l'accompagne, est-ce qu'ils ont toute la fraîcheur d'esprit, si je puis dire, pour faire ce travail?
Oui, alors justement, c'est un élément aussi très important de la spécificité de la démarche. Outre le fait, je vous le disais dans sa définition, que c'est une démarche qui est offerte, hein, qui est au patient, c'est aussi une démarche qui part d'une réflexion d'équipe. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui va aller proposer directement au patient d'écrire. C'est une concertation pluridisciplinaire en équipe, lors souvent des réunions sur dossier ou lors de manière plus informelle au cours de la journée, à l'arrivée d'un patient, d'un nouveau patient, etc. où à ce moment-là, on se pose la question par rapport à tel ou tel événement de cette personne-là, par rapport à son profil, par rapport à ce qu'il dit, ce qu'il exprime. Est-ce que lui proposer cet espace particulier pourrait faire sens pour lui? Voilà.
Quand on dit vous allez écrire vos mémoires, qui seront un peu, comme dirait Chateaubriand, des mémoires d'outre-tombe, parce que vous avez parlé tout à l'heure de temporalité, ce qui était un euphémisme, autrement dit, le temps que je les recueille, que je les traite, que je les fasse éditer, le patient, entre guillemets, auteur, est décédé.
Oui, c'est vrai, mais ça n'est absolument pas une écriture testamentaire. En tout cas, ce n'est pas du tout l'objectif. Et c'est pour ça que vous avez raison de souligner que le terme de biographie hospitalière peut être complexe à entendre pour la personne malade. Et c'est aussi pour ça que nous sommes en pluridisciplinarité, que nous réfléchissons à la manière dont nous allons proposer ce soin. En effet, c'est très important de trouver la bonne porte d'entrée pour permettre pleinement à ce patient de se libérer, de cheminer, etc. Donc, en effet, il y a cette difficulté de la temporalité. Vous m'avez posé la question précédemment. Elle exige, et c'est pour ça que la formation est si déterminante, elle exige pour nous, biographes, une adaptabilité très importante. Du jour au lendemain, tout peut basculer en soins palliatifs. La durée moyenne de séjour en soins palliatifs, c'est 10 à 15 jours. Donc, en effet, je vous rejoins pleinement, il est difficile d'aller dire qu'on fait une biographie complète, bien sûr. Mais peu importe. Ce qui est important...
Par 15 jours, le temps de recueillir, de parler, ça ne va pas donner un livre bien épais quand même.
Ah, ça dépend. En fait, ça dépend de la fréquence à laquelle j'accompagne la personne. Il m'est arrivé en tout cas de faire ce qu'on appelle des biographies minutes, c'est-à-dire des gens que je rencontre 2-3 fois. Et ensuite, leur état ne permet plus que l'entretien se passe. Mais à ce moment-là, je produis, j'offre toujours quelque chose qui peut prendre, évidemment, pas forcément la forme d'un livre. Ça peut être des lettres, ça peut être que je mets dans une sorte d'écrin. Enfin, quelque chose, en tout cas, qui est unique, comme la personne qui nous a quittés.
Voilà, le patient, quand il vous voit arriver, c'est un peu comme autrefois, mais ça doit se passer encore, le patient qui voyait arriver le prêtre, on sait que c'est un peu le début de la fin. Hein.
Alors, quand il voit arriver la socio-esthéticienne, c'est la même chose?
Non, peut-être pas, mais là, si vous commencez à écrire vos mémoires, même de façon rapide, ça veut vraiment dire que on fait le bilan et on tire un trait.
À aucun moment... J'arrive dans la chambre du patient en lui disant « Bon, il est peut-être temps d'aller faire votre bilan et de me raconter des choses. » Non, d'abord, vous savez, ce qui est extrêmement, extrêmement important, c'est la relation de confiance
Est-ce qu'on a le temps de l'instaurer?
Bien sûr, on l'a, bien sûr. C'est pas la durée qui est importante, c'est la qualité de la relation. Bien sûr qu'on a, bien sûr que quelquefois il m'arrive de rencontrer les gens 2-3 fois avant qu'ils acceptent que les choses soient écrites. Et il leur faut ce temps-là. Et il est nécessaire à la fois pour eux et pour moi pour que réellement se dénoue quelque chose, que se libère quelque chose.
Il y a des gens qui refusent.
Bien sûr qu'il y a des gens qui refusent. Il y a des gens qui, pour qui le livre, et c'est vrai, est un projet, et qui sont dans une telle souffrance que l'idée du projet en lui-même est déjà encore, reste une souffrance. Donc non, je ne peux plus rien investir, ça n'est plus possible. Ça m'est arrivé de muer ce travail de biographie en des espaces de lecture, tout simplement.
Que lisiez-vous ?
Alors c'est souvent à la demande bien sûr de la personne, dans ses goûts, dans ce qu'elle aimait elle-même lire auparavant, ou alors je lui fais découvrir. D'ailleurs, j'ai
Vous êtes lectrice aussi,
oui,
bien sûr. Célèbre là-dessus, mais ça veut dire que vous pouvez vous muer, c'est un accompagnement intellectuel.
Tout à fait, tout à fait. Mais vous savez ce qui est important à travers ce travail, s'il est écrit bien sûr, si l'objet concret du livre est offert, ça a beaucoup de sens, ça a beaucoup de sens. On a parlé des patients, mais parlons des familles, c'est absolument incroyable. C'est Louis Aragon qui dit tout ce qui est écrit compte tenu de vivre dans l'absence. Bien sûr que c'est un objet extrêmement fort, extrêmement symbolique. Moi, je suis toujours en relation avec le papa d'une personne que j'ai accompagnée qui me dit « Mais ce livre, je l'ai sur mon bureau, je le lis, le relis et le relis encore. » C'est un accompagnement dans le processus du deuil, bien sûr. Et pour les soignants aussi. Hein. Il faut savoir que cet espace, c'est un espace d'accompagnement totalement singulier, unique. Et nous, c'est quelque chose qui nous est cher en soins palliatifs, c'est de rester vraiment dans cet accompagnement totalement singulier, unique pour la personne dans son histoire et ses éléments de son histoire. Sans que je les divulgue, le fait de pouvoir parler un peu de là où se situe la personne, qu'est-ce qu'elle vit dans ces espaces, dans ces rencontres, c'est aussi une aide pour l'ensemble de l'équipe de soins. En fait, c'est à travers le cheminement. Et ce cheminement, il a lieu avec les soignants, il a lieu dans cet espace de rencontre autour de l'écriture, il a lieu dans cet espace de lecture, parce que imaginez-vous que c'est pas évidemment uniquement une lecture, mais que quand je ferme le livre, il y a beaucoup de choses qui sont partagées, échanger avec la personne, et c'est cette manière-là à elle de cheminer. Peu importe la voie du cheminement, l'important c'est que la personne puisse y trouver un sens et une forme d'apaisement.
C'est un peu une confession, la confession du malade solitaire, pour copier un peu Monsieur Rousseau.
C'est vrai qu'il y a certaines fois une forme de confession, même de secret, qui apparaissent et qui sont à respecter. Donc là encore, vous voyez combien la réflexion éthique autour de ce qui peut se passer dans ces entretiens est importante. Ces secrets, soit ils sont racontés et la personne précise ne le mettez pas dans le livre, soit ils sont un peu posés là comme une bombe, et là ça veut dire beaucoup beaucoup de réflexion autour de ça.
Comment l'infirmière que vous êtes, et donc la biographe également, parce que la biographe, vous l'avez dit, c'est plus facile de poser une perfusion peut-être que de recueillir des souvenirs de quelqu'un qui va mourir. Comment vous arrivez à vivre avec ça? Parce que c'est votre quotidien, vous êtes avec des gens qui vont partir et qui vont vous confier quelques morceaux de leur vie, quelques peurs certainement aussi, quelques regrets. Comment on arrive à voir le moral, parce que vous, quand vous allez au bureau, c'est pour voir des gens qui vont partir.
Oui.
Il n'y a pas trop d'espoir là, quand même. Comment vous arrivez à vivre avec ça?
Alors, c'est marrant parce que cette notion d'espoir, vous voyez, vous la soulignez, elle ne m'est jamais apparue une seule minute dans mon travail, ni en tant qu'infirmière, ni en tant que biographe. Je suis pleinement dans le présent avec la personne.
Encore l'infirmière, on comprend, parce qu'il y a un geste technique nécessaire, incontournable à faire. Mais là, vous allez quand même beaucoup plus loin dans le masochisme. si je puis dire, le masochisme du soignant en soins palliatifs. C'est-à-dire que vous allez recueillir de l'intime...
Et en quoi l'intime déposé, partagé, la confiance témoignée est-elle du masochisme ?
Bah, c'est du masochisme parce que vous ne sentez pas une forme d'impuissance dans ce que vous faites. On aime bien, quand on fait quelque chose, on aime bien que ça aboutisse, que on aime peut-être un médecin. Souvent, les médecins ou les jeunes disent ben, on est allé vers la médecine parce qu'on voulait sauver. Mais là, il n'y a plus rien à sauver. Si vous sauvez des souvenirs, c'est important.
Merci de le souligner.
Mais c'est fondamental. Mais après, est-ce que ça aide vraiment le patient ? C'est un accompagnement supplémentaire sur le plan psychologique.
C'est un accompagnement.
C'est la dernière chose qu'on peut faire pour lui, de recueillir ses souvenirs ?
Non, il y a plein d'autres soins, entre guillemets, de support qui peuvent être aidants. Et tous les patients, on en parlait tout à l'heure, ne répondent pas forcément positivement à ce travail d'écriture. Mais en tout cas, c'est parce que je pense que là, dans notre société actuelle, on est toujours dans cette posture du faire, de répondre, d'apporter des choses. Là, non, je suis juste dans l'être. Et cette permettre d'être dans le moment présent, d'accueillir peut-être l'angoisse qui ne peut dire, transmettre à ses proches de peur de leur faire de la peine, qui ne peut pas forcément transmettre au médecin parce qu'il ne va pas oser, etc. Cet espace-là, mais il est primordial parce que en déposant la parole, ils s'entendent.
Je vous entends, je suis profondément persuadé de ça, mais je venais à vous. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête là, tous les jours ? Vous allez dans ces services, il faut être quand même particulièrement costaud psychologiquement pour tenir face à ça.
Alors, moi, je ne crois pas être costaud psychologiquement. Il y a une chose que je veux vraiment préciser qui est importante, c'est que je travaille en équipe. Je ne travaille pas seule. Et ça, c'est indispensable. C'est-à-dire qu'en effet...
Travailler avec l'équipe médicale, mais après, oui, au niveau... quand vous recueillez les confidences, entre guillemets, quand vous allez les mettre en forme, mm-hmm, là, vous êtes seule, mm-hmm, avec ces mots.
C'est vrai. Je suis seule face à mon magnétophone. J'entends les entretiens. Vous savez, vous posiez une question très juste tout à l'heure. C'est que peu de gens reçoivent leurs livres, hein, puisqu'ils sont souvent décédés. Et donc, c'est transmis à la famille. Donc, en effet, je travaille avec cette voix à distance. Je travaille sur des éléments parfois qui sont complexes. Mais le fait d'être en équipe, ça me permet aussi, moi, de partager mes émotions, mes ressentis, mes questionnements, etc.
Ça veut dire que pour vous, c'est une thérapie, pour pouvoir tenir. C'est une soupape de sécurité psychologique.
Mais on ne fait pas des soins palliatifs, Jacques, seul. C'est impossible. Je vous défie de penser à quelqu'un qui puisse faire des soins palliatifs seul.
Est-ce que c'est une carrière qu'on peut mener très très longtemps, totalement épuisant moralement ?
Alors, moi, ça ne m'épuise absolument pas. Vous savez, ce que je reçois, Alors, je ne vais pas vous dire que la joie tous les jours. Voilà, mais quand même, je tiens à préciser, parce que pour moi, l'humour est central dans la vie. Je ris beaucoup.
Vous ne sortez pas quand même du service avec la banane le soir que peut-être demain, celui avec qui vous avez échangé, pour qui vous travaillez, entre guillemets, vous allez peut-être le retrouver mort.
Peut-être, en effet, mais ça ne m'empêche pas d'avoir la banane, comme vous dites, parce que moi, ce que je vois, c'est le temps que j'ai passé avec cette personne-là et la richesse de ce qui s'est passé durant ce temps-là.
C'est le don du temps, donc.
Oui, mais croyez-moi, aujourd'hui, le don du temps, c'est quand même quelque chose de très précieux.
Accorder du temps aux autres aujourd'hui, effectivement, c'est une grande chose.
Et quand la personne m'exprime à l'issue de la rencontre, je vais mieux maintenant, ça m'a fait du bien, ou quand on demande à cette personne, qu'est-ce qu'on peut vous apporter là maintenant qui vous aiderait, et qu'elle vous répond, bah, là, ce qu'on fait, ça m'aide. Ben voilà, c'est la plus belle récompense. Et croyez-moi, bien sûr qu'il y a eu des mots. Je vais pas vous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes et que tous les accompagnements se passent idéalement, etc. Bien sûr qu'il y a des moments extrêmement compliqués. Et heureusement, c'est ce qui fait de moi un sujet humain. Je veux le garder, ça. Mais ce que je veux vous dire à travers mon témoignage, c'est que tous ces gens avec qui j'ai écrit, tous ces gens que j'ai eu la chance d'accompagner, m'ont enrichi énormément. C'est-à-dire que c'est une relation duelle. On s'apporte mutuellement des choses. Et ça, c'est un cadeau extrêmement...
Oui, à part que si je puis dire, c'est une réflexion cynique, c'est vous qui profitez le plus de ce qu'on vous a apporté, puisque...
Puisque
votre partenaire part.
Oui, oui, mais je partirai un jour aussi.
Nous n'en sommes pas précis. Bon, alors, Valérie Bernard, une question qui est importante, et je sais qu'elle vous tarde un peu. Vous avez dit tout à l'heure, ce service est gratuit, mais il est financé comment ?
Oui, ça c'est une vraie difficulté que rencontre l'ensemble des biographes hospitaliers actuellement.
C'est pas remboursé par la sécurité sociale.
Ce n'est absolument pas remboursé par la sécurité sociale. Valérie Amilewski travaille d'arrache-pied pour faire reconnaître ce soin comme un réel soin de support, mais ça n'est pas encore le cas pour l'instant. Donc en fait, nous vivons essentiellement, en tout cas moi, bien sûr, ce n'est pas du bénévolat. Je suis rémunérée pour le temps passé dans le service, mais je suis rémunérée par le biais de mécénats privés, d'entreprises toulousaines, par exemple, qui m'apportent des fonds, et également de Elebor, qui est un fonds de dotation en soins palliatifs, qui me subventionne à hauteur de 50% du budget prévu.
Alors, si on veut faire des dons,
alors, adresse. Si on va faire des dons, il faut aller sur le site de notedevie.org et par le biais de Hello Asso, vous pouvez participer, adhérer, faire le don que vous souhaitez et nous en avons besoin. Il faut savoir que les livres qui sont confectionnés par notre relieur d'art ont un coût, puisque ce sont des objets uniques reliés à la main. Chaque livre, en moyenne, a un coût de 100 euros. Et j'offre 2 livres aux proches et aux familles. Voilà.
Alors Valérie Bernard, quand vous n'êtes pas auprès de vos patients en écriture, en réflexion, comment occupez-vous votre temps ? Vous défoulez, il faut se défouler, il doit falloir vider un peu cette tête. Qu'est-ce que vous faites pour ça ?
Alors oui, vous avez raison. C'est important, l'activité physique est une forme de thérapie aussi, d'aide en tout cas. Je cours. Donc ça, c'est j'aime courir dans la nature, pas en ville de préférence, parce que c'est une manière de me connecter à la nature, de repenser à ce qui a pu se passer et puis en effet d'extérioriser parfois certaines tensions qui sont bien réelles.
Donc la course à pied,
oui.
Un peu l'art aussi, puisque je vous ai posé la question, est-ce qu'il y a une œuvre d'art qui vous a particulièrement marqué ? Alors vous m'en avez indiqué un certain nombre. Faites un choix. Allez, ne me parlez que d'une.
Ne vous parlez que d'une. Alors là, c'est compliqué. Vraiment, vraiment.
Vous touchez un peu à tout. Vous m'avez parlé des Gonchil, quand on en préparait.
Oui, de Lucien Freud. Ce sont des gens qui ont des portraits souvent très forts. Donc, évidemment, on est toujours face à l'humain. Ça, c'est évident. Ce sont des gens qui m'ont marqué. Mais il y a des... dans l'art, je trouve que... d'ailleurs, je vous ai mis des noms, mais en fin de compte, c'est une sensibilité avant tout. Donc, pourquoi on s'arrête à un tableau plutôt qu'à un autre ? Parce qu'au moment où vous le rencontrez, ça fait écho en vous. Il y a quelque chose de particulier. Dire plus... Bien, il y a des... Par exemple, je ne suis pas très surréaliste, etc. Il y a peut-être en effet des gens des artistes pour lesquels je suis moins sensible. Et encore, je reste ouverte. J'aime découvrir toutes formes d'art. Donc, j'aime aller aux expos. J'aime aller au musée. Je trouve que c'est très très important. Ça me nourrit. Ça me nourrit.
Le moment qui a marqué votre vie, qui a quelque chose qui a peut-être été décisif dans certaines orientations, quel est-il ?
Je crois que c'est le moment dont je vous ai parlé en début d'entretien, ce moment où j'étais dans un service où à l'époque la surveillante, on disait encore surveillante il y a quelques années, était extrêmement rigide, elle effrayait tout le monde. Ceci dit, son service tournait très bien. Et donc, jamais un soignant n'était assis dans ce service. Il fallait toujours être en ébullition, à droite, à gauche, faire des soins, etc. Et un jour...
Vu le manque de personnel, il y en a un peu aujourd'hui qui doivent s'asseoir.
Ah oui, oui, c'est vrai, vous avez complètement raison. Non, on a déjà du mal à faire pipi, alors imaginez-vous vous asseoir. Ce que je veux dire, c'est que cette personne-là, elle m'a surprise. Spontanément, je m'étais assise aux côtés de cette personne, cette dame qui était en soins intensifs en cardiologie et qui était seule et qui était vraiment en phase pré-agonique. Et j'avais terminé d'ailleurs, je crois, mes horaires, mais je suis restée près d'elle à lui tenir la main. Et à ce moment-là, cette surveillante est arrivée. Je me suis dit, oh là 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 là, je vais me faire incendier. Et elle m'a regardée. Elle m'a dit, c'est bien ce que vous faites. Et je crois que ça a été un élément déterminant, en effet, pour moi. Me dire, en effet, peut-être que rester là, c'est bien. Voilà.
Votre grand-père, c'était l'homme de votre vie?
C'est l'homme que je n'ai pas connu.
Ah.
Voilà, donc peut-être que lui aussi, quelque part, il me porte dans ce que je fais, en effet. Mon grand-père est décédé dans un accident d'avion lors d'un meeting à Lyon en 58, donc je ne l'ai pas connu. Je pense que c'est une figure pour moi. Peut-être que tous ces gens que je rencontre, c'est un peu lui aussi, quelque part.
Alors, rappelez son nom.
Jean.
Voilà. Dernière séquence de notre entretien, on parle un peu de livres, comme toujours dans mes émissions. Vous avez fait un choix, Khalil Gibran, le prophète. Pourquoi ce choix ?
Parce que j'y puise beaucoup de paix, de sagesse. Parce que je suis pas... Alors, le prophète, bien sûr, il est sous-tendu par une croyance religieuse que je n'ai pas forcément. Mais j'y trouve beaucoup de... D'abord, il aborde des thématiques qui sont les thématiques, j'allais dire, de tous les jours. Le mariage, les enfants, la mort, la volonté, le bien, le mal, etc. Mais je trouve qu'il y met une grande sagesse et que cette sagesse, elle parle au-delà même du religieux. Et c'est pour moi, en effet, une source d'inspiration.
Allez, Khalil Gibran, le prophète, donc c'est le choix de notre invité Valérie Bernard. Le mien, ce sera un peu plus prosaïque, c'est les Mémoires d'outre-vie, le tome 2 de Jean-François Cannes aux éditions L'Observatoire. C'est un gros livre, mais qui se lit de façon extrêmement rapide, c'est passionnant, c'est même très vivifiant. C'est un garçon qui ne voulait pas être journaliste et qui l'a été, qui ne voulait pas être patron de presse et qui l'a été, et qui finalement a réussi dans toutes ses aventures professionnelles. Donc un parcours d'une grande ampleur, beaucoup de curiosité, beaucoup de culture, une énergie intense, ça ne s'invente pas. Il faut lire ce deuxième. Alors il y a le premier tome, bien sûr, qui est paru il y a quelques mois. Il faut lire ce deuxième tome aussi, marqué par la création de l'événement du jeudi, marqué par la création de Marianne, et où il nous fait part de toutes ses expériences de vie, des épisodes parfois improbables ou extravagants, drôlatiques ou tragiques, qui va peut-être en déranger certains. Mais c'est quelqu'un qui a aussi la dent dure et qui s'est raconté, même s'il dit qu'il n'a aucune mémoire, qu'il ne retient aucun souvenir. Enfin, ça lui a quand même permis de faire déjà deux tomes un peu épais. Et ça nous permet de revivre un peu notre passé, mais avec l'éclairage que pouvait avoir Jean-François Cannes, qui a toujours été un garçon extrêmement corrosif et qui sait voir et comprendre ce qu'il y avait autour de lui à l'époque. Donc on parlait évidemment beaucoup du personnel politique, on parle de culture, on parle de choses tout à fait passionnantes. Jean-François Cannes, Mémoire d'outre-vie, tome 1, il est paru il y a quelques mois ou un an et demi, et tome 2 à présent aux éditions L'Observatoire, que je ne saurais trop vous recommandez. On est arrivé, Valérie Bernard, on pourrait encore parler, mais vous reviendrez me voir, j'imagine, parce que nous avons peut-être d'autres choses à dire. Donc merci Valérie Bernard Kersoudi. Je rappelle que si on veut vous apporter un soutien financier à travers le mécénat, rappelons que le mécénat, il y a quand même des déductions fiscales très intéressantes,
oui,
puisque on déduit les deux tiers de ce qu'on donne et on fait une très très belle action. Notedevie.org, c'est bien ça ?
C'est ça.
Notedevie.org. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne avec à la technique Tiphaine Lemel. Merci Tiphaine. Et bien sûr, vous allez pouvoir retrouver le podcast de cette émission ainsi que tous les autres sur le site de la station Esprit Occitanie. Merci Valérie Bernard encore une fois. Bonne semaine à toutes et à tous.
Merci.
hold on to this advice.